la présence gracieuse de Dieu. Maintenant, par exemple, hein, si on est tous d'accord, nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Dieu est ici parmi nous. Amen. Dieu est ici parmi nous. Maintenant, maintenant, maintenant. Cependant, ce n'est pas toujours que nous sentons la présence de Dieu. Mais de temps en temps, Dieu, il décide de se révéler d'une manière spéciale. De temps en temps, Dieu, il décide de se révéler d'une manière concrète, visible et puissante, quoi. Et tout le long de la Bible, nous retrouvons plusieurs histoires où nous rencontrons en fait plusieurs manifestations de la présence de Dieu. Par exemple, avec Abraham, par exemple, avec Moïse au désert, plusieurs fois au désert. Et ce matin, j'aimerais parler de la manifestation de Dieu, de la manifestation de la présence de Dieu dans la vie d'Élie, du prophète Élie. C'est intéressant parce que nous imaginons que la manifestation de la présence de Dieu est quelque chose qui arrive seulement aux gens très spéciaux, n'est-ce pas? Nous pensons que la manifestation de la présence de Dieu arrive seulement dans certains moments très spéciaux. Nous pensons que pour que ces lieux ici soient remplis de la gloire de Dieu, nous pensons que pour que ces lieux ici soient remplis de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu, au point que cela nous touche émotionnellement, au point que cela nous touche dans nos émotions, physiquement, nous plions nos genoux en adoration, nous louons le Seigneur, nous confessons nos péchés, nous pensons que pour que cela arrive, notre communauté doit être extrêmement consacrée à Dieu, doit être extrêmement avec le cœur pur. Elle doit être, il faut que la louange soit toujours extraordinaire. Ou sinon, nous pensons que pour que cela arrive, que pour que nous puissions, pour que ces lieux ici soient remplis de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, nous pensons que cela arrivera seulement à la fin d'une période de jeûne et de prière. Par exemple, si un jour nous allons faire 40 jours des jeûnes et des prières. Nous pensons que la présence de Dieu arrivera à la fin de cette période et que Dieu, il va se manifester, Dieu va nous visiter d'une manière puissante et nous serons tous oints par Dieu. Oui, c'est vrai, c'est possible. Il se peut que oui. Mais ici, dans l'histoire d'Élie, que j'aimerais vous raconter, il s'est passé justement le contraire, en fait. Il s'est passé justement le contraire. Élie, hein, si vous n'êtes pas trop familiarisé avec la Bible, si vous ne connaissez pas trop les histoires bibliques, Élie, il était un prophète d'Israël et qui avait quelques problèmes de relation avec le roi Achab. Voilà, ce n'étaient pas de bons amis, hein. Donc, le roi Achab, il était le roi du royaume du Nord. Donc, si vous n'êtes pas encore familiarisé avec la Bible, les contextes ici dans lesquels les rois et les prophètes se trouvaient, c'était un contexte où la nation d'Israël était divisée en deux royaumes, les royaumes du Nord et les royaumes du Sud. Les royaumes du Nord, appelés Israël, avaient pour capitale Samarie. Et les royaumes du Sud, appelés Juda, avaient pour capitale Jérusalem. D'accord? Et tout le long de cette période de division des royaumes, les royaumes du Nord, du Sud, eurent 20 rois, dont seulement 8 ont été fidèles à Dieu. Et les royaumes du Nord, Israël, eurent 19 rois, aucun fidèle à Dieu, aucun. Et le roi Achab, il fut l'un des pires, l'un des pires. Mais bon, je dirais que peut-être que pire que lui, ce fut son épouse, n'est-ce pas? Jézabel. Jézabel n'était pas bien, quoi. Jézabel, elle était malade. Elle était folle. Elle était flayée. Elle voulait supprimer tous les idoles. Elle voulait supprimer les dieux d'Israël du gouvernement, de la politique, de tout. Elle a rempli le royaume d'Israël d'idolâtrie. Elle a rempli le royaume d'Israël de sorcellerie. Et puis Élie, lui, il exerça son ministère justement dans ce contexte. Il exerça son ministère dans cette période-là. Élie, lui, il prophétisait contre le roi Achab. Il prophétisait contre la nation d'Israël. Il disait, repentez-vous, repentez-vous. Puis un jour, Achab en avait marre, il décida de tuer Élie. Je vais te tuer, Élie. On va te tuer, Élie. Et quand Élie a pris la nouvelle, il alla devant le roi. Il lui dit, j'ai su que tu veux me tuer, c'est juste. Oui, alors viens. Je suis là. Tu veux me tuer? Alors viens. Hein? Je suis là. Et si jamais tu n'as pas le courage, tu veux inviter d'autres amis, d'autres. Tu peux même inviter tous les prophètes de Baal. Baal était un idole que le peuple adorait à l'époque. Tu peux inviter les prophètes de Baal. Tu peux inviter vos sorcières. C'est ça qu'Akab a fait. Akab a invité 450 prophètes de Baal. Donc, 450 prophètes contre Élie qui était tout seul. Élie, il mit sur un autel en sacrifice, il mit un sacrifice sur l'autel, et puis il demanda que les 450 prophètes le fassent pareil, quoi. Puis il leur dit, le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu du ciel, c'est celui-là, le seul et le vrai Dieu digne d'être adoré. Donc les prophètes de Baal commencèrent à invoquer Baal. À invoquer Baal jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Mais rien, rien. Et puis ils invoquaient encore un tout petit peu, allez, hein? Rien. Et puis Élie, il commença à se moquer d'eux. Il dit, criez plus fort, peut-être que votre Dieu il dort. Criez plus fort, peut-être que Baal est allé aux toilettes. Carrément, il dit, carrément ça. Mais rien, rien. Alors Élie, il pria Dieu, et puis tout à coup, le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma tout le sacrifice. Tout le monde était paniqué. Tout le monde était paniqué. Et ils reconnurent que le Dieu d'Israël était le seul et le vrai Dieu. Et même Achab l'a reconnu. Le reconnu. Et à cette période, c'était intéressant parce qu'il ne pleuvait pas en Israël. Plus de pluie pendant quelques mois, quoi. Et puis au moment où tous partaient, après cet événement extraordinaire, au moment où tous partaient, ils étaient tous dans leur cheval, Élie leur dit, encore une chose là, les amis, encore une chose. Lorsque vous serez arrivés à la maison, Dieu va faire pleuvoir. Et puis quand il a dit ça, tout à coup un vent s'est mis à souffler et la cavalerie du roi elle est partie en courant. Et puis Élie, il attacha sa ceinture, ou c'était une veste, en fait, je ne sais pas. Parfois dans quelques traductions, c'est une ceinture ou c'est une veste. Mais bref, il attacha sa ceinture et à pied, il courut plus vite que tous les chevaux. Tellement il était rempli de force par l'Éternel, par le Seigneur, quoi. Et puis Achab, il arriva au palais et puis il expliqua tout cela à son épouse. Ce n'était pas une bonne idée. Pas qu'il faut, hein, mais dans ce contexte. D'accord? Dans ce contexte-là. Donc il expliqua tout à son épouse. Il dit, Jézabel, mais là, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Toi, Élie, il a tué les 450 prophètes de Baal. Le Dieu d'Israël s'est manifesté d'une manière puissante, concrète, visible. Tout le monde s'est repenti de leur idolâtrie. C'était un réveil. Et puis Jézabel, elle fut furieuse. Furieuse. Elle n'y croyait pas. Donc elle envoya un messager pour aller avertir Élie comme quoi le lendemain, son sang serait mélangé avec tous les 450 prophètes qu'il avait tués. Le messager, il courut hein, vite à lui raconter la nouvelle à Élie. Il dit, Élie, Jézabel, elle est furieuse contre toi. Elle avait été tuée, Élie. Elle a dit qu'elle voulait te tuer. Bon. Élie, on est d'accord, il vient d'expérimenter une manifestation de la présence des dieux d'une manière extraordinaire, quoi, concrète, visible, puissante. Alors qu'au moment, quand il a reçu le message de Jézabel, qu'aurait-il dû faire? Il aurait dit, ah, tu veux me tuer, Jézabel? Alors viens. J'ai déjà tué 450, en plus, en moins. Alors viens, tu peux venir. Je n'ai pas peur de toi, quoi. Je vais faire pareil. J'ai déjà affronté les rois, alors je vais affronter toi aussi, alors tu peux venir. Mais qu'a-t-il fait? Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Mince. Mince. Il est où le prophète audacieux? Il est où le prophète courageux? Il est où le prophète plein d'onction? Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il laissa son jeune serviteur. Le jeune serviteur ici n'était pas un simple assistant. Il était vraiment un confident, un ami, un proche. Il les suivait partout, quoi. Puis ici, Élie laissa même son partenaire. Il veut rester tout seul. Il veut rester tout seul. Peur, fuite, isolement. Puis le verset 4 dit, il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'est assis à l'ombre d'un, on dit comment, un genêt, isolé, et demanda la mort. Ce n'est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie. Prends-moi la vie. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est, je n'attends plus rien. Je ne veux plus rien. J'en ai assez. J'en ai marre. Peur, fuite, isolement, envie de mourir. Si Dieu lui avait dit, Élie, que pourrais-je faire pour toi? Élie aurait dit rien. Élie, que veux-tu que je fasse demain? Rien, Seigneur. Rien, rien, rien. Je vais mourir. C'est ça, c'est tout. Je veux que tu m'enlèves la vie et c'est tout. C'est ça que je veux. Je vais mourir. Et puis le verset 5. Il se coucha et s'endormit. Alors là, c'est grave. Hein? Alors là, la chose devient sérieuse. Parce que dormir ici est une symbole, est une expression symbolique de déconnexion de la réalité. Il veut se déconnecter de la réalité. Il se coucha et s'endormit, quoi. Son monde est devenu tellement obscur qu'il s'est déconnecté de la réalité. Il y trouva quelque chose qui ne l'obligeait plus à penser à quoi que ce soit, et puis il y restait. Hein? Netflix, tout le week-end. Il y trouva quelque chose qui n'obligeait à penser à plus rien, et puis il y restait. Et puis le verset 5, le verset d'après, c'est intéressant, parce que regarde ce qu'il dit. Il dit qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres. Ça donne envie, hein? Chauffé et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. Le lendemain, un ange apparut une deuxième fois. Hey, coucou Élie, t'as bien dormi? Voilà. Il s'éleva et puis, voilà, en fait. Avant ça, j'ai oublié un verset. L'ange, pour la deuxième fois, il vient et dit, coucou Élie, est-ce que tu as bien dormi? Alors maintenant, on va marcher. Maintenant, on va marcher. D'accord? Alors il faut manger, quoi. On va sortir de sous ce genêt-là et on va marcher. Et puis, Élie s'éleva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne d'Horeb. Et donc, ce gâteau qu'il mangea là était énergissant. Hein? C'était l'équivalent au Red Bull hein, aujourd'hui. Imaginez, 40 jours et 40 nuits, les gars étaient au taquet là. Hein, ils font ça, tac, tac, 40 jours. Et puis, en arrivant au Horeb, qu'a-t-il fait? Il se coucha, il trouva une caverne et il s'endormit. Il trouva une caverne, non, il n'y a pas, et s'est dormi. Bon, jusque-là, ok, hein, 40 jours et 40 nuits sans arrêt, il était un peu fatigué, mais quand même. Mais là, c'est grave, quoi. Certains spécialistes, certains psychologues disent que lorsque les symptômes durent plus de 2 semaines, cela devient un cas de dépression. Et les symptômes d'Eli sont tous là. Peur, fuite, isolement, envie de mourir, absence de rêve, absence de motivation. 40 jours et 40 nuits se sont déjà passés et maintenant Eli est où? Dans une caverne. Il est dans une caverne. Et puis à ce moment-là, quand il arriva dans la caverne, là-bas, dans la grotte, dans la caverne, l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. Que viens-tu faire ici, Élie? Que viens-tu faire ici, Élie? Et puis, qu'est-ce qu'il répondit? J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. C'est comme si Élie disait, que fais-je ici, Seigneur? Que fais-je ici? Le problème, Seigneur, c'est que ça fait déjà trop longtemps que je suis fidèle à toi, d'une manière intègre et pure. Le problème, Seigneur, c'est que ça fait déjà trop longtemps que je te sers jour et nuit, d'une manière intègre, d'une manière pure. Mais maintenant, Seigneur, j'en ai marre. Maintenant, je suis fatigué. Et tu veux savoir, Seigneur, quel a été le fruit de mon travail comme étant tes prophètes, comme étant ton prophète? Aucun! Aucun. Bon, peut-être qu'il n'a pas parlé comme ça, qu'il était déprimé. Hein. C'était plutôt, oh Seigneur, je suis fatigué. Je suis, voilà. Et puis ensuite, il dit, je suis le seul qui reste. Et les voilà qui cherchent à me prendre la vie. Et maintenant, Seigneur, cette folle de Jézabel veut me tuer. Élie toucha le fond, les amis. Il toucha vraiment le fond. Parce que ce n'était pas vrai ce qu'il disait là. Ça, c'est pas vrai. À tel point que Dieu lui dit après, je lui dis, Élie, ce n'est pas vrai ce que tu es en train de dire là. Il y a encore en Israël 7 000 hommes, 7 000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal. Tu n'es pas seul, Élie. Élie, tu as perdu la notion de la réalité. Tu es, Élie, ton travail de prophète n'a pas été inutile, Élie. N'a pas été inutile. Mais bon, après toute cette histoire-là, hein, que pourrons-nous apprendre au sujet de la manifestation de la présence de Dieu? Je dirais que nous pouvons apprendre 3 choses. 3 choses. La première chose que nous pouvons apprendre se trouve dans ce que Dieu dit. Ça, je trouve magnifique, magnifique. La première chose que nous pouvons apprendre, de ce que nous pouvons apprendre, se trouve dans ce que Dieu dit. Il est dit, Élie, que viens-tu faire ici, Élie? Que viens-tu faire ici, Élie? Dieu n'a pas dit, que fais-tu là, Élie? Dieu, il dit, que viens-tu faire ici, Élie? Une possibilité, c'est que Dieu, il se trouvait déjà dans la caverne, hein? Et lorsqu'Élie serait arrivé, Dieu l'aurait dit tout surpris, Élie, tu es là! Que viens-tu faire ici, Élie? Mais frères et sœurs, il y a un détail, c'est que Dieu n'habite pas dans les cavernes. Dieu habite dans les personnes. Dieu habite dans les personnes. Dieu n'est pas avec la caverne. Dieu est avec Élie. Dieu est dans la caverne. Pourquoi? Parce qu'Élie y est aussi. C'est comme si Dieu lui disait, Élie, que sommes-nous en train de faire ici? C'est comme si Dieu disait, Élie, pourquoi m'as-tu amené ici? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici, Élie? J'imagine hein, Dieu au moment où Élie entra dans le désert hein, et Dieu est là avec lui et puis un ange serait apparu et aurait dit, Seigneur, tu vas où? Là, dans le désert, moi, je suis avec Élie. Parce que je lui ai promis que je serai avec lui jour et nuit, peu importe où il va. Donc, Élie amène Dieu au désert. Élie amène Dieu dans une caverne. Et quand ils y arrivent, Dieu dit, Élie, que sommes-nous en train de faire ici, Élie? Élie, pourquoi m'as-tu amené ici? Parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Dieu est avec moi. Dieu est avec Élie. Donc, la première chose que j'apprends de tout cela, c'est que la manifestation de la présence de Dieu, elle est gracieuse. Elle est très gracieuse. Pourquoi? Parce qu'Élie ici, il n'était pas dans une demi-nuit de prière. Élie ici n'était pas dans un culte prophétique d'adoration et louange avec l'apôtre des États-Unis, je ne sais pas qui, avec... Élie ici, il n'était pas en train de jeûner, de chercher la face de Dieu. Il n'était pas en train de prier pendant 40 jours et 40 nuits, en train de chercher la face de Dieu avec toutes ses forces, avec tout son être. Non. Par exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, hein, quand il a été mis en prison, l'apôtre Paul, il était là en prison, même avec toutes les blessures, il était blessé, il était limite mort, en prison, et même en prison, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait des louanges à Dieu. Il adorait Dieu, là, dans la prison. Mais il lit ici. Il ne voulait rien savoir des louanges, des prières. Il voulait simplement mourir, les amis. Mourir. Il voulait mourir. Il était terrifié. Sans foi, sans espérance. Sa vie n'avait plus de sens. Il avait tout abandonné. Tout abandonné. Si quelqu'un le regardait, hein, il se dirait, voilà, regardez le prophète, regardez le grand prophète Élie. Il quitta le ministère. Il a eu peur de Jézabel. Il a nié l'autorité de Dieu. Il s'est caché dans une caverne. Et puis Dieu dirait, oui, mais c'est mon fils. C'est Élie. C'est mon fils. Dieu, il n'est pas dans la caverne avec le grand prophète Élie. Non, Dieu, il est avec Élie. Parce que des grands, maintenant, n'a plus rien. Des vertueux, maintenant, n'a plus rien. Maintenant, il a un homme brisé, un morceau déprimé qui veut mourir. Mais Dieu est avec lui. Dieu est avec lui. Parce que la présence de Dieu avec nous, elle est gracieuse. Et même quand je ne sens pas la présence de Dieu, même quand je ne le cherche pas, même quand je ne prie pas, même quand je ne lis pas la Bible, même quand je ne veux plus rien savoir d'église, je ne veux plus rien savoir d'évangélique, même quand le pasteur m'appelle pour me rendre une visite, je dis que non, je ne veux pas, je veux tout simplement rester dans ma chambre. À un moment donné, je vais sentir un poids sur mon lit. Et une voix va me chuchoter, Léo, mon fils, que sommes-nous en train de faire ici? Pourquoi m'as-tu amené dans cette chambre obscure? Que sommes-nous en train de faire ici? Et Dieu, à ce moment, il sera avec moi. Et Dieu, à ce moment, il sera avec toi. Et Dieu, à ce moment, il sera avec nous. Parce qu'un jour, Dieu nous a fait une marque, il nous a mis une marque, et il a dit, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est ma fille. Donc faites gaffe, Jézabel, faites gaffe, parce qu'il m'appartient, elle m'appartient. Et si tu veux le toucher, il faudra passer par moi d'abord. T'as envie? Oui, mais c'est quand même, Élie, il s'enfuit, Élie, il est faible, Élie, il est empêché, Élie, il est... Peu importe, il est mon fils. Il est mon fils et je suis avec lui parce que je l'ai promis. Vous voyez, cette présence gracieuse de Dieu, elle est extraordinaire pour nous. Et cette pression-là culpabilisante qui dit que pour que Dieu te bénisse, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, yaka, 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 n'a rien à voir avec le Dieu d'Israël. Lire la Bible, c'est bon pour toi. Chercher la face de Dieu de toutes tes forces et de toute ton énergie, c'est bon pour toi. Mais cela n'a rien à voir avec la façon dont Dieu va te traiter et s'occuper de toi. D'ailleurs, c'est très probable que tu sois dans une vallée obscure, tu aies touché le fond, eh bien, Dieu il va encore t'embrasser et te dire « Que sommes-nous en train de faire ici, mon fils ?» C'est beau. « Que sommes-nous en train de faire ici, ma fille ?» C'est cette présence gracieuse qu'Élie expérimente. La deuxième chose que nous apprenons au sujet de la manifestation de la présence de Dieu, c'est que la manifestation de la présence de Dieu, elle est sur mesure. Elle est sur mesure. Dieu, il parle à chacun d'une manière spéciale, à chacun, au bon moment pour chacun, d'une manière spécifique et précise. C'est pourquoi c'est une bêtise de vouloir faire de la présence de Dieu quelque chose de standard, quelque chose de standardisé, dogmatique. Si Dieu t'a parlé d'une manière, il t'a parlé à toi. Si Dieu m'a parlé d'une manière, il m'a parlé à moi. Il se peut qu'avec une autre personne, il le fasse différemment. Regardez comme c'est beau la manière par laquelle Dieu se manifeste à Élie. Le verset 11, ce n'est pas affiché, mais vous connaissez très bien. L'Éternel dit, Élie, sors maintenant. Tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et voici que l'Éternel passa. Devant lui souffla un vent si violent qu'il fendait les montagnes, il fracassait les rochers. Mais l'Éternel n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais l'Éternel n'était pas dans ce tremblement de terre. Après cela, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans ce feu. Enfin, après le feu, ce fut un bruissement doux et léger. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage. Ce fut dans les bruits d'un léger souffle, tout doux, une parole intime et profonde. Que Dieu se manifesta à Élie. C'est évident, hein? Élie, il est dans un état de dépression. Élie, il vit avec le trouble de stress post-traumatique. Il lutta contre 450 prophètes de Baal, donc mollo, hein? Calme, calme. C'est ce que Jésus dit. Hein? Jésus dit que Dieu ne cassera pas le roseau déjà plié et n'éteindra pas la lampe dont la lumière faiblit. Ici, Élie, il est un roseau déjà plié. Ici, Élie, il est une lampe dont la lumière faiblit. Par exemple, si Dieu il avait envoyé des anges pour aller parler avec Élie à ce moment-là, les anges que Dieu aurait envoyés, ce n'auraient pas été des anges de type charismatique. Un pentecôtiste, ça serait plutôt l'ange du type tranquille, quoi. Hein, je veux pas dire. Élie, il toucha le fond. Il est en dépression. Ça ne sert à rien. Trop de bruit, trop de gens qui crient, trop de. Mais maintenant, on est d'accord. Hein? Si c'était avec les prophètes de Baal et Dieu. Était venu avec un bruissement doux et léger. Élie aurait dit, Seigneur, mais là, tu rigoles, parce que 450, là, un bruit doux et léger. Il faudra venir avec un ouragan, il faudra venir avec un tremblement de terre, il faudra venir avec... sinon, ça ne va pas marcher, Seigneur, 450. Cependant, ici, c'est un bruissement doux et léger. C'est sur mesure, vous voyez. C'est sur mesure. Donc, frères et sœurs, Dieu, il va te parler de ta manière, d'une manière que tu comprendras. Ici, chacun de nous a sa manière d'expérimenter la présence de Dieu. Et Dieu sait comment se manifester à chacun de nous. Amen. Ainsi, soyez en paix. Soyez en paix. Parce que Dieu, il va te parler à ta manière, au bon moment, de la bonne manière. Dieu, il va te trouver. Amen. S'il n'est pas déjà en train de le faire maintenant. Hein? J'ai l'impression que Dieu il est en train de frapper la porte de certains là. Peut-être qu'il est en train de le faire maintenant. Il veut te visiter et te rencontrer maintenant. Laisse-lui. Puis après, que Dieu s'est manifesté à Élie, hein, je trouve magnifique. Et Dieu lui demanda de consacrer un nouveau roi pour la Syrie. Donc Dieu maintenant, il donna une mission à Élie. La mission de consacrer un nouveau roi pour la Syrie, de consacrer un nouveau roi pour Israël, au lieu du roi Achab, et de consacrer un nouveau partenaire de ministère, Élisée. C'est ce qu'Élie fit ensuite. Et puis, à la fin du chapitre 19, termine avec Élie en route avec Élisée. Le chapitre 19 termine comme ça. Élie, il est en route avec Élisée parce que maintenant, Élie, il est restauré. Élie, il est plein de vigueur. Élie, il découvre que Dieu a encore beaucoup de choses à lui donner. Élie, il découvre que Dieu a encore beaucoup de choses à lui offrir. Et que Dieu veut encore l'utiliser beaucoup plus. Beaucoup plus. Et j'imagine hein, qu'à ce moment-là, Élie aurait dit à Dieu, « Alors Seigneur, tu te souviens là de cette histoire que je voulais que tu m'enlèves la vie? Alors faisons comme si de rien n'était, d'accord? Faisons, tu peux oublier, d'accord? Là, cette prière que j'ai faite, là tu oublies, ça va bien. Je n'allais pas bien, Seigneur. » Et puis Dieu dit, « Ben là, effectivement, Élie, là, tu n'étais pas bien. J'ai dû aller avec toi dans une caverne. J'ai amené un ange pour te nourrir. Je t'ai mis debout pour la vie. Mais maintenant, Élie, tu es en vie maintenant. Maintenant, je te donne une nouvelle opportunité. Maintenant, je te donne une nouvelle opportunité de recommencer. Pourquoi? Parce que la manifestation de la présence de Dieu, elle est pour nous restauratrice. La présence, la manifestation de la présence de Dieu pour nous est restauratrice. Tu sais, il y a des moments dans nos vies où nous voulons tout abandonner. Il y a des moments dans nos vies où nous ne voulons savoir de plus rien. Nous voulons désister, nous en avons marre. Puis Dieu nous visite et il chuchote un léger souffle dans notre âme. Il nous nourrit. Il nous met debout pour la vie, il nous embrasse, parce que la présence de Dieu, elle est pour nous restauratrice. La manifestation de la présence de Dieu, elle est gracieuse, elle est sur mesure et elle est restauratrice. Amen. Si toi aujourd'hui tu te trouves comme Élie, dans une caverne, dis à Dieu maintenant, Seigneur, je te limite de vouloir mourir là. Je ne croyais plus que j'avais un avenir. Je ne croyais plus que ça valait la peine de m'engager. Je ne croyais plus qu'il valait la peine de m'engager pour ce mariage, pour mes enfants, pour ma santé, pour... Et dis-lui, Seigneur, sortons ensemble de cette caverne. Sortons ensemble de cette caverne. Aide-moi. Aide-moi. Redonne-moi la vie, quoi. Redonne-moi la vie. Commence de nouveaux processus de vie en moi. Fais cette prière maintenant. Si tu t'identifies avec cette caverne-là. Amen.